Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser dans cette semaine consacrée à 89, pour savoir si 89, le prisme de ce que nous entendons par cette date, 89, peut-il encore nous éclairer, peut-il nous orienter en 2019 et au-delà. La deuxième de nos cinq rencontres aujourd'hui, après François Hartog hier, aujourd'hui Jean-Marie Delarue. Est-ce un prisme brisé? Est-ce un prisme qui peut encore nous éclairer? Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir prolonger cette question, cette réflexion, cette discussion avec Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et bien sûr, quand on se demande si 89 peut encore nous éclairer, l'expression qui vient tout de suite, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, la chute des murs de 1789, des murs de 1989. Sont-ils encore éclairés? Peuvent-ils encore nous éclairer? C'est cette question que nous allons discuter aujourd'hui avec Jean-Marie Delarue. Bonsoir Jean-Marie Delarue.
Bonsoir Frédéric Worm, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être venu ce soir, ça me paraît particulièrement important de pouvoir discuter avec vous des questions que j'ai résumées, peut-être que d'ailleurs que vous allez critiquer cette façon de présenter. Vous présidez depuis un an environ,
un peu moins,
la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et cette expression qui est dans le titre de l'institution dont vous assumez la présidence, cette expression « les droits de l'homme » est devenue aujourd'hui non plus une évidence au-delà de laquelle on pouvait se demander s'il fallait aller, mais peut-être même un problème, voire c'est fragilisé d'une façon étonnante. Est-ce que pour vous, 89, avec l'ambiguïté de cette date, avec des guillemets autour de cette date, est-ce que pour vous, 89 était associé aux droits de l'homme, et est-ce que leur destin est lié dans leur force, comme peut-être aujourd'hui dans leur fragilité? Vous qui avez une formation d'historien, Jean-Marie Delarue, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent.
Alors pour moi, l'histoire, justement, c'est un puzzle d'une certaine manière dont les pièces s'assemblent au fil de l'avenir, ou plutôt des suites de l'histoire. Et je crois que ces pièces du puzzle ont consisté à rapprocher d'une part la prise de la Bastille, d'autre part la déclaration des droits de l'homme et enfin la nuit du 4 août. Ces trois événements...
Là on est en 1789.
On est en 1789 et je crois que la lecture qu'on fait de 1789 a été différente en 1889. En 1889, je dis bien, au moment du centenaire... Enfin, lorsque la République est consolidée... Et puis elle est différente encore en 1989. Et je crois que c'est vraiment en 1989 qu'on associe droits de l'homme et 89. Et qu'on emploie cette expression si galvaudée et si inexacte de France, patrie des droits de l'homme. Je crois que quand on a célébré, en amnistiant les communards, en instaurant la devise républicaine, etc., la République en 1889...
Le premier centenaire,
voilà. On ne parlait pas des droits de l'homme, me semble-t-il, ou très peu. Très peu. Et la déclaration des droits passait bien après la prise de la Bastille et la nuit du 4 août. Et je crois d'ailleurs que les choses ont été infléchies dans le sens où, là, on y reviendra sans doute, la question des libertés publiques s'est imposée beaucoup plus que la question des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, manifestement, on a cherché le consensus. 89 est une date qui doit être consensuelle. Je crois, dans l'esprit des gouvernances, en tout cas de ceux qui ont pensé la commémoration dont vous avez sûrement parlé hier.
Donc là, en 1989,
c'est bien quelque chose qui doit faire consensus. Et toutes les manifestations qui ont été organisées, que ce soit le colloque des historiens, le défilé sur les Champs-Élysées ou la mise au Panthéon d'un certain nombre de personnalités de la Révolution, c'est pour dire il y a consensus. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du consensus? Parce que 89... 1789 a été largement jusque-là une occasion de dissensus dans notre histoire. Et elle le reste encore aujourd'hui si on gratte un petit peu même la commémoration de 1989.
Oui, quand on disait, on se demandait si la Révolution française était terminée ou pas pendant 200 ans, c'est parce que précisément par révolution, on entendait une division, une France en guerre civile permanente et en discussion en tout cas. Et puis en 1989, il y a eu en effet cette idée qu'on pouvait considérer qu'on passait au consensus. La question c'est, à votre avis Jean-Marie Delarue, pourquoi est-ce que les droits de l'homme ont été, pour ainsi dire, le nom de ce consensus?
Parce que les droits de l'homme ont été consensuels avant 89, au sens 1989. Mmh. Les droits de l'homme ont été consensuels au lendemain de la dernière guerre mondiale, lorsque, dans l'enceinte des Nations Unies nouvellement créée, un comité se réunit pour rédiger une déclaration universelle des droits de l'homme, dont le préambule dit à peu près, considérant que l'ignorance et le mépris des droits de l'homme ont conduit aux actes de barbarie dont a souffert l'humanité. Mmh. Bon, et je crois que cette espèce de réaction très vive et très très à la fois rationnelle mais aussi très émotionnelle contre la barbarie, c'est quelque chose qui fait largement consensus. La déclaration universelle des droits de l'homme. Là, je parle de celle des Nations Unies, pas celle de la France, de 48.
48,
pareil. A été votée, sauf erreur, par 40 voix et 8 abstentions. Bon, autrement dit, il y avait bien consensus dans la diplomatie internationale. Et je crois que, même si aujourd'hui, on pourrait dire à peu près le contraire de ce que je suis en train de vous raconter, je crois qu'en tout cas, en 1989, on a pensé que les droits de l'homme, en effet, étaient une bonne opération qui pouvait réunir l'ensemble de la société, on va dire les choses comme ça, autour de 1789.
Donc pour vous, finalement, le consensus autour des droits de l'homme qui reviennent en 1989, c'est parce que entre les précédents anniversaires et cette date de la fin du XXe siècle, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 1945 et 1948. On pourrait aussi dire que finalement la guerre froide, les dissidents, le mouvement en faveur des libertés publiques, justement, et de l'état de droit, y compris en Europe occidentale, a fait monter ce thème des droits de l'homme comme un consensus. Mais alors, vous qui présidez une commission, les droits de l'homme gagnent-ils à faire l'objet d'un consensus? C'est-à-dire, c'est aussi un outil critique. Il y avait aussi, même pour les dissidents d'Europe centrale et orientale, pour finalement résister à la barbarie, aussi vague ce terme soit-il, les droits de l'homme étaient finalement pensés comme un outil de résistance. Quand ils deviennent l'objet d'un consensus, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, un cadeau à double tranchant? Alors aujourd'hui, ils ne le sont plus, j'allais dire, heureusement en un sens, mais replaçons-nous un instant, il y a 30 ans. Jean-Marie Delarue.
Je crois que ce consensus est là pour dissimuler d'autres débats qui font dissensus. Robespierre n'est toujours pas admis, la convention girondine même fait problème, etc. Donc, les droits de l'homme, c'est la matrice dans laquelle... Alors, est-ce que c'est si consensuel que ça? Alors, il faut distinguer en effet la période actuelle de la période d'il y a 30 ans. Je crois que il est impossible que les droits de l'homme fassent l'objet d'un consensus vraiment universel. D'abord parce que je suis frappé de la méconnaissance du contenu des droits de l'homme. Je ne sais pas quel écolier, mettons, on va dire de sixième ou de cinquième, pourrait nous réciter aujourd'hui la Déclaration des droits de l'homme, celle de 89.
Bon. Elle est entrée pourtant dans la Constitution. Absolument. Quand on entre dans un commissariat en France, vous qui avez aussi présidé la Commission sur les libertés publiques, on la voit affichée, cette déclaration. Peut-être d'ailleurs est-ce
pas
un signe.
Toujours, mais
ça peut être aussi un mauvais signe finalement.
Elle doit y être.
Il faut l'afficher.
Elle doit y être en principe.
Donc en principe, effectivement, nous devrions tous être censés la savoir, censés ne pas l'ignorer.
Est-ce que j'ai le droit, Frédéric Worms, de vous raconter une anecdote à ce propos?
Vous avez tous les droits. Ce serait quand même embêtant que j'enlève des droits au président de la Commission des droits de l'homme.
Je vais en abuser. Non, j'espère que non. Je visitais un jour, au titre des fonctions que vous venez d'évoquer, un établissement de détention. Et dans les couloirs de cet établissement, un peu sévère, il y avait beaucoup d'affiches de la Déclaration des droits de l'homme. Et nous nous en sommes réjouis, pour la raison même que vous indiquez. Et nous avons vite demandé aux détenus depuis combien de temps ces affiches étaient là. Ils nous ont dit tous naturellement qu'elles étaient là depuis la veille de notre arrivée.
Hier soir.
Ce qui m'a permis de dire au directeur en sortant, j'espère que le lendemain de notre départ, elles seront encore là. Bon, voilà. Donc il y a en effet une espèce d'invocation des droits de l'homme qui est un alibi très facile et qui est, ben voilà, c'est notre base commune à tous. Mais je crois que depuis l'origine, ou en tout cas ceux qui s'en occupent, savent très bien que les droits de l'homme, c'est un catalogue de principes, si l'on veut bien, mais c'est aussi un catalogue d'objectifs. C'est-à-dire que il est impossible de dire que un droit de l'homme aujourd'hui est respecté dans sa totalité, dans la totalité de son acception. Et d'autre part, il est encore moins possible aujourd'hui, si ces mots ont un sens, de dire que l'ensemble des droits de l'homme sont respectés comme il en conviendrait. Je crois que un des thèmes majeurs de notre temps, et contre quoi 1980 n'a rien pu faire, c'est le relativisme de droits de l'homme par rapport à d'autres droits de l'homme. Aujourd'hui, une grande puissance mondiale n'arrête pas de parcourir les instances internationales de droits de l'homme en disant il y a des droits de l'homme plus importants que d'autres. Et ces droits de l'homme, ce sont les droits économiques et sociaux, les droits politiques et civiques, on verra après.
Bon. Là, vous pensez à la Chine, voilà. Si et je ne me trompe pas, Jean-Marie Delarue, qui joue cette fois-ci sur un relativisme apparemment, disons quand même universel, enfin les droits sociaux contre les droits, les libertés publiques, mais qui a aussi parfois joué du relativisme culturel, qui a dit parfois les droits de l'homme sont occidentaux et ça n'a pas été le seul pays à le dire. Et puis nous ne le sommes pas, donc de quel droit finalement nous imposer ces droits
Oui, absolument. Alors ça sont de vieux débats peut-être, mais pour terminer sur votre question antérieure, je voulais simplement vous dire que ce consensus en effet de 89 qui permet à tout le monde de dire que nous nous reconnaissons tous dans ce 89-là, c'est un consensus apparent et par réel, à la fois sur le contenu de la Révolution, puisque certains aspects en sont gommés, et à la fois sur la portée des droits de l'homme, puisque, au fond, on se contente des droits de l'homme comme une déclaration de principe et on fait disparaître leur côté objectif. Ils doivent être un objectif à réaliser devant nous.
Mais alors, Jean-Marie Delarue, précisément, vous venez de rappeler finalement un enjeu essentiel et qui justifie aussi l'institution que vous présidez, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On pourrait dire il y a une erreur qui consiste à dire que parce qu'ils sont déclarés, ils sont réalisés, ou parce qu'on est d'accord, aussitôt ils sont mis en pratique. Au fond, ce que vous venez de dire, c'est qu'ils définissent plutôt un écart entre la réalité et ses principes, et donc nous oblige à essayer de combler cet écart, d'où aussi la commission qui les met en pratique. Mais cette erreur n'est pas seulement une erreur théorique. En 1989, ça a été un peu une illusion partagée, presque l'illusion que la France était la patrie des droits de l'homme. Quelques mois après le mur de Berlin tombe, on croit que l'Europe et le monde sont devenus ouverts pour les droits de l'homme. Est-ce que cette illusion, cette erreur n'est pas devenue une illusion avec des effets extrêmement graves sur de désillusions à venir et dans laquelle nous serions aujourd'hui, Jean-Marie Delarue?
Vous parlez d'illusion, ça, je crois que le bouquin le plus important de François Furet sur la Révolution porte aussi ce concept.
Alors, le passé d'une illusion qu'il opposait à l'avenir d'une illusion qui était un texte de Freud sur la religion. Et François Furet pensait le communisme et la Révolution d'ailleurs finalement comme une illusion dont nous sortirions finalement. Vous le pensez aussi, Jean-Marie Delarue?
Alors non, moi je pense pas que ça soit une illusion. Il faut bien distinguer, je crois, ce qui est opératoire comme dans les principes proclamés à un moment donné et ce qui ne l'est pas. Je crois que ce qui est opératoire, c'est la synthèse d'un certain nombre de revendications. Avant la Déclaration des droits de l'homme, faut-il le rappeler, il n'y a pas seulement le mouvement des Lumières, il y a les cahiers de doléances aussi, il y a les syndicats de curés qui sont formés ici ou là, etc. etc.
Les syndicats de curés, j'avoue,
on pourra y revenir tout à l'heure. Mais ce que je veux dire là, c'est que à un moment donné, proclamer un principe, dire que la République est une et indivisible, par exemple, je prends un autre exemple que les droits de l'homme, ce sont des moments importants pour faciliter une prise de conscience et pour faciliter, je crois, la synthèse d'un certain nombre d'aspirations. Bon. Mais en même temps, il faut savoir que ces principes, en effet, ne coïncident pas avec la réalité. Et ces écarts avec la réalité peuvent être de multiples formes. On ne va pas faire ici de panorama historique qui serait assez vain, mais je crois que, par exemple, disons très simplement, pour prendre une illustration, droits de l'homme et pauvreté. Des mouvements qui s'occupent des pauvres dans ce pays n'arrêtent pas de dire que les droits de l'homme, c'est pour les autres. Et pas pour eux qui, non seulement n'ont pas de toit, on accumule de difficultés dans la vie, mais par conséquent, ne peuvent pas savoir ce que veut dire concrètement la liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. etc. Bon. Donc, il y a cet aspect que, à chaque fois qu'on pense un principe, il incombe au pouvoir public de veiller à leur réalisation. Et la question qui se pose à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est celle-ci. Est-ce que les pouvoirs publics sont bien dans leur mission de réduire l'écart qui sépare les principes contenus dans les droits de l'homme au sens actuel du terme? On a dépassé 89 ici, les droits de l'homme se sont enrichis depuis, de la réalité telle qu'ils ont à la diriger.
Ouais. Oui, mais justement, dans cette tâche, Jean-Marie Delarue, il y a cette tâche très pratique, très concrète, sur laquelle on reviendra, l'état des libertés publiques en France aujourd'hui, les capacités effectives d'exercice des droits, vous venez de citer la pauvreté, vous avez aussi travaillé sur les prisons, ça a toujours été un impératif, que bien que condamnés, les prisonniers soient traités avec la dignité afférente à leur humanité, les malades, les étrangers, les réfugiés, cet état des libertés publiques aujourd'hui, c'est une chose, et on peut, évidemment, il faut discuter de l'écart entre les principes et la réalité. Mais est-ce que vous ne pensez pas, pour rester sur le diagnostic historique plus large, Jean-Marie Delarue, un instant, que finalement, cette impression, cette erreur de 1989, comme quoi ça aurait pu être, il suffit de déclarer les principes, a un peu dévalué les principes aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que tout le monde en France, responsables politiques, intellectuels, militants de diverses associations, est-ce que tout le monde prend encore la tâche au sérieux, prend encore la tâche que vous venez de définir au sérieux? Est-ce qu'elle n'a pas été un peu dévaluée depuis 30 ans, depuis ce bicentenaire de 1989, parce que précisément, on a cru que c'était fait?
Alors, je vais peut-être contourner votre question, mais dans l'idée d'y répondre quand même.
Non, mais je prenez la stratégie que vous voulez.
C'est pour se faire comprendre simplement.
Oui, bien sûr.
Il y a quelque chose qui me paraît s'apparenter aux droits de l'homme. C'est ce que nos gouvernants appellent, par paresse, les valeurs fondamentales de la République. Et on pourrait penser qu'en effet, dans leur esprit, je suppose, j'en ai jamais interrogé très précisément sur ce point, mais valeur fondamentale de la République, ça veut dire au fond droit de l'homme. Bon, on va dire que c'est concevable. Or, depuis que nous battons en particulier, depuis 2001 on va dire, contre un certain nombre de mouvements qu'on appelle terroristes, on invoque sans arrêt les valeurs fondamentales de la République. Et je n'ai jamais entendu un gouvernement depuis 15 ans, 19 ans, 18, dire qu'est-ce que c'est très précisément aujourd'hui, dans le contexte que nous traversons de lutte contre le terrorisme, d'agression contre nous, qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Parce que dire que nous défendons des valeurs sans l'avoir à les définir, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Je prends un exemple qui va choquer sûrement nos auditeurs, mais je crois qu'il faut qu'ils y réfléchissent.
Il faut être concret, il faut aussi prendre les points sensibles.
Quand on ferme une mosquée au motif qu'on y tient des discours incendiaires, on va dire, mais c'est parce que les discours qui y sont tenus portent atteinte aux valeurs fondamentales de la République. Oui, mais les valeurs fondamentales de la République comportent aussi la liberté d'opinion, qui comporte aussi la liberté de religion. Bon. Jusqu'à quel point on va protéger cette liberté et jusqu'à quel point on a le droit de fermer un lieu de culte? Ces questions-là ne sont pas posées, parce qu'on prend pour acquis, et c'était le sens de 89, des droits ou des valeurs fondamentales de la République qu'on ne prend plus la peine de définir. Et donc ce consensus que vous avez au début de notre entretien, Frédéric, c'est un consensus mou qui ne se définit même plus.
Et qui se dégonfle si facilement. Alors Jean-Marie Delarue, vous venez d'évoquer un exemple dont vous évoquez avec force le principe dans beaucoup d'entretiens récents. Pour vous, finalement, plutôt qu'un consensus illusoire, ce qui a dévalué et fragilisé les droits de l'homme depuis une trentaine d'années, et particulièrement depuis 2001, c'est l'impératif de sécurité. C'est au nom de la sécurité qu'on considère justement dans ce flou artistique sur les valeurs de la République comme une valeur fondamentale aussi, et peut-être l'est-elle malgré tout. Et d'ailleurs, elle fait partie de la première déclaration et pas des suivantes en 1789. Mais pour vous, c'est cet impératif de sécurité sans définition, sans lien avec les libertés publiques, l'égalité, les autres principes au nom desquels on la défend. C'est ce vague autour de la sécurité qui est la source de la fragilisation des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, pour vous, Jean-Marie Delarue.
C'est en tout cas une des raisons qui fait que les droits de l'homme aujourd'hui sont en recul. Oui, sûrement. C'est-à-dire que le besoin de sécurité, qui est réel, que chacun peut partager naturellement, est poussé par les gouvernants comme un alibi de leur action et comme un alibi qui tient lieu d'occupation de l'ensemble du terrain politique. Enfin, il n'y a plus grand-chose d'autre. Et cet impératif de sécurité, comme je l'ai toujours dit, pardon de me répéter ici, il n'a pas de fin, c'est-à-dire que c'est un horizon qui se dérobe toujours, puisqu'il y a toujours de nouveaux événements, il y a toujours de nouvelles combines criminelles qui font que il faut toujours inventer de nouvelles mesures. Bon. Et tous les policiers le savent, ça. Et donc, par conséquent...
Et on ne sera jamais à 100% sécurité, voilà, ne serait-ce que exactement. Parce que nous sommes des humains exactement. Fragiles et exactement. En conflit les exactement. Uns avec les autres exactement. Et avec des pulsions meurtrières et des lois pour les retenir, mais pas pour les exactement. Faire disparaître, finalement.
Leonardo Ciaccia, l'écrivain sicilien, nous rappelle que sous Mussolini, n'est-ce pas, on disait les portes et fenêtres sont ouvertes parce que le régime fait régner la sécurité, il n'y a plus de cambriolage. Bon. Il y avait encore des cambriolages en Italie, mussolinienne, mais surtout, il y avait aussi le parquage des Juifs, etc., etc.
Voilà. Donc, les opposants, l'assassinat des opposants.
Exactement, Matteotti. Bon. Et est-ce que la sécurité ne fait pas occulter tout ceci? Est-ce que la sécurité ne va pas justifier n'importe quoi? Et on sent bien que la sécurité, elle s'adresse qu'à un certain nombre de personnes. Bon. Donc, je crois que c'est à cause de cela que on n'est plus dans les valeurs fondamentales telles qu'elles peuvent s'incarner et on est au contraire dans une espèce de consensus qui leur tourne le dos à ces valeurs.
Jean-Marie Delarue, on reviendra dans un instant sur ce qui a fait cette fragilisation. Il y a certainement ces impératifs de sécurité et ce discours venant aussi de fragilité objective, disons, d'attentats, de crises qui remontent aujourd'hui. Mais il y a aussi des discours qui viennent fragiliser le principe même des droits de l'homme, qui renoncent au nom de ce vague aussi à analyser en quoi ces droits de l'homme sont fondamentaux pour les êtres humains. Nous allons y revenir après le morceau de musique que nous allons entendre et qui nous rappelle aussi, au fond, de manière ironique, en un sens, ce que c'est qu'être humain et pourquoi finalement, parmi les fragilités de l'être humain, les droits de l'homme sont nécessaires pour nous prémunir de certains risques.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisé. baisers reçus. Savais-tu qu'il durerait? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, nous reprenons notre discussion avec Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour savoir si ces derniers, les droits de l'homme, avec 89, 1900 et 1789, peuvent encore nous éclairer aujourd'hui. Alors, Jean-Marie Delarue, on vient d'entendre Alain Bashung, qui, évidemment, parle de notre mortalité, de notre fragilité derrière cette apparente immortalité pour consoler un disparu et préparer aussi et être dans le deuil de justement de l'homme mortel. Au fond, Jean-Marie Delarue, vous dites aussi parfois que vous placez un espoir dans le regain des droits de l'homme aujourd'hui, dans les préoccupations sur l'environnement, sur les fragilités objectives de l'être humain. Pour vous, les droits de l'homme font partie des protections fondamentales de l'être humain fragile, de l'être humain mortel. Opposer les droits de l'homme et la sécurité, c'est un contresens majeur, finalement, Jean-Marie Delarue.
Oui, je crois. D'abord, merci à vous de me faire découvrir cette chanson que je ne connaissais pas. Donc, je vais réécouter.
J'espère qu'elle vous accompagnera ensuite.
Et en l'écoutant, je me rappelais que toutes les déclarations des droits, qu'elles soient universelles, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes, commencent par le droit à la vie. Et je me suis rappelé aussi, en l'écoutant, cette parole biblique bien connue selon laquelle l'amour est fort comme la mort. Mais en l'espèce, ça n'a pas marché.
Vous savez que Jean Kelevitch, qui la citait au début, en la revendiquant entièrement, après la guerre, disait « mais la mort est forte comme l'amour, mais pas plus fort
». Oui.
Il y a une tension. Les deux sont très forts, mais l'amour n'est pas non plus moins fort que la mort.
Alors, c'est aussi une tension de cette nature qu'il y a entre les droits dont nous parlons. Et alors, je crois que il me semble que il faut dans les droits aujourd'hui maintenir leur caractère indissoluble. Je crois qu'il faut maintenir, comme je le disais tout à l'heure, le caractère de principe encore à ancrer dans la réalité. Et je crois aussi, comme vous venez de le suggérer, qu'il faut rechercher dans les évolutions de nos sociétés ce qui offre matière aujourd'hui à développement et à insistance des droits de l'homme. Bon. Je vais paraître très sévère sans doute si, au fond, l'histoire récente des droits de l'homme, peut-être depuis 1989, le 89 dont nous parlons, n'a pas donné une place très forte aux droits de certaines catégories un peu oubliées. C'est par provocation que je dis ça, que sont les femmes, les enfants, etc. 89, c'est aussi la naissance de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous allons fêter le trentenaire le 20 novembre prochain. Bon. Et donc apparaissent là, dans les préoccupations des acteurs conscients des droits, la nécessité de s'intéresser à ce que j'ai dit, et puis aussi aux personnes souffrant de handicap, etc. etc. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est que je crois que des avancées ont été faites, elles sont encore devant nous, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais, en même temps, on a de nouveaux champs qui s'ouvrent dont il faut être conscient, et vous venez de citer l'environnement, les nouvelles technologies dont nous avons discuté ensemble au Comité national d'éthique et dans d'autres bien dans d'autres lieux, ce sont des choses qui nous obligent à repenser les droits de l'homme. Bon. Mais l'environnement aussi, puisque l'homme est menacé dans sa globalité maintenant, désormais, nous oblige à penser les droits de l'homme. Les droits de l'homme sur l'environnement ne nous disent rien.
C'est directement, évidemment.
Directement, rien. Il n'y a pas de droit à l'environnement sain. C'est le mérite de Jacques Chirac d'avoir ajouté à notre Constitution et dans la Déclaration des droits liminaires cette charte de l'environnement dont on a beaucoup parlé à propos du principe de précaution, mais dont le principe essentiel, c'est pas ça, c'est le droit à un environnement sain. Bon, donc il faut trouver là aussi dans cet objectif matière à réalisation. Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure. Il me semble aussi que les évolutions de notre société nous obligent à remettre au premier plan des choses que nous croyons acquises. Personnellement, je suis très triste à l'âge que j'ai d'avoir à défendre des choses que je croyais plus nécessaires d'avoir à défendre un jour. J'évoquais la liberté de conscience tout à l'heure à propos de la fermeture de mosquées. On a vu un premier ministre de ce pays dire que les salafistes étaient en soi quelque chose de mal, comme s'il appartenait au premier ministre de la République de se prononcer sur des tendances religieuses. Bon,
et non pas sur des actes ou des discours précis, oui, bien sûr.
Je crois qu'il faut là revenir à certaines choses qui touchent à la liberté de la presse, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, que nous croyons et notamment en 89, il y a 30 ans, largement acquises, et contre lesquelles il faut aujourd'hui à nouveau entrer en vigilance parce qu'elles sont menacées. Donc les droits de l'homme, loin d'être un acquis, sont quelque chose qui doit toujours être défini comme objectif, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais quelque chose aussi qui doit s'adapter aux évolutions sociales, aux évolutions de notre monde. Et je ne veux pas hiérarchiser les droits de l'homme. Il ne peut pas y avoir une hiérarchie des droits de l'homme. Je ne peux pas avoir à choisir entre mon droit de ne pas être torturé et ma liberté d'opinion. C'est très important, ça. Bon. Mais il faut aussi inventer les droits de l'homme qui correspondent à notre société d'aujourd'hui.
Mais alors, Jean-Marie Delarue, justement, vous venez d'évoquer deux directions majeures et qui, en effet, ne peuvent pas être pensées comme contradictoires, comme si on devait sacrifier l'une à l'autre dans l'évolution des droits de l'homme. Il y a une ouverture à des nouveaux droits, en un certain sens, en tout cas des relations humaines, que les droits de l'homme permettent justement d'améliorer parce qu'ils permettent d'y voir des injustices, par exemple dans la relation entre les hommes et les femmes ou entre à l'égard des enfants et bien d'autres, ou des prisonniers sur lesquels on reviendra aussi. Et puis il y a le retour aussi, le renforcement des libertés fondamentales. Sur l'environnement, par exemple, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? C'est de déclarer des nouveaux droits ou bien, en un certain sens, de renforcer les anciens, puisqu'on sait bien qu'il n'y aura jamais de progrès sur l'environnement s'il n'y a pas des contre-expertises publiques, si la presse n'est pas libre de faire des enquêtes, si les pouvoirs économiques et politiques ne se voient pas opposer des contre-pouvoirs d'opinion, d'expression, de manifestation. Finalement, les droits humains les plus classiques, celui de la presse, de l'expression, sont aussi fondamentaux pour les droits humains les plus nouveaux. Par exemple, le droit d'avoir un environnement vivable.
Vous avez raison. La force, je crois, des droits de l'homme, au-delà de leur caractère général, c'est leur plasticité. Et c'est le fait que, j'évoquais tout à l'heure, le droit à la vie.
C'est la forme, c'est le cadre.
Exactement, exactement. Et le droit à la vie s'applique aux pauvres que j'évoquais tout à l'heure, comme aux personnes qui sont dans des archipels qui seront bientôt submergés par les eaux. Et donc c'est à chacun de trouver après, et à chaque gouvernement, de trouver les formes nécessaires pour sauvegarder ce droit à la vie qui est menacé, même en France, par certains aspects. Les tragédies, les catastrophes humaines que nous avons connues, les maisons qui s'effondrent comme un château de cartes dans les Antilles lorsqu'un cyclone y passe, c'est la manière de concevoir le droit à la vie pour certaines populations. Et je pense aux Antilles aussi à propos d'un pesticide bien connu qui empoisonne maintenant la Martinique depuis de longues années parce que il y a eu carence. Donc on voit bien là que j'ai rêvé un jour, je crois que je n'ai pas encore osé en parler aux membres de la commission, mais faire l'inventaire aujourd'hui du droit à la vie en France en 2019.
Mais alors justement, le droit à la vie peut
intéressante.
Très importante, surtout si on le prend finalement non pas comme un infini illimité, parce que nous sommes mortels, justement, comme nous l'a rappelé Alain Bachung, mais plutôt comme des limites contre certaines pratiques évitables et qui fragilisent nos vies. Mais alors, justement, pour revenir à la question précédente, Jean-Marie Delarue, paradoxalement, pour préserver le droit à la vie, il faut d'abord préserver les libertés publiques, c'est-à-dire les libertés publiques du débat sur le droit à la vie. Si on ne peut pas discuter des faits, discuter des principes, si on limite les libertés publiques, on ne peut rien traiter du tout. Est-ce que ça n'est pas là votre souci et l'institution que vous présidez, est-ce que ça n'est pas là sa mission première, au fond, les libertés publiques? La force de votre discours, c'est aussi de nous rappeler cela, ce terme qu'on oublie parfois quand on parle des droits de l'homme, on croit que c'est des valeurs, justement, mais ce sont des droits, des libertés publiques.
Moi, je crois que c'est... Alors, pour le coup, je faisais allusion à ça tout à l'heure, je crois que les valeurs fondamentales de notre République, si j'avais à les définir, c'est les droits de l'homme plus les grandes libertés publiques de la République commençante, c'est-à-dire la Troisième République des années 1880-1900. Et je crois que ces deux choses-là, c'est ce qui nous définit. Par conséquent, nous sommes en train d'opérer une espèce de consensus mou sur des choses indéfinissables. Les libertés publiques, aujourd'hui, pardon de cette familiarité à la radio, en sont pour leur grade. Et on voit bien que la liberté de manifester a été fortement mise en question ces dernières semaines, au point que...
On parle de la France elle-même, hein, sans parler des dictatures qui fleurissent.
Exactement.
Partout,
mais... Et ce qui me met mal à l'aise, c'est que dans... Pardon de sacrifier l'actualité, mais c'est que dans une discussion internationale récente, une sommité internationale d'un pays qui n'est pas réputé pour sa tendresse démocratique a pu mettre en symétrie les manifestants de Moscou et les gilets jaunes de France. Bon, on oublie ce faisant que si on se polarise sur la force de la matraque qui s'abat sur le crâne d'un manifestant, elle est d'égale vigueur à Moscou ou en France, naturellement.
Elle n'est pas également prise dans tout à fait les mêmes procédures de droit,
voilà,
malgré tout. En
exactement.
France, la matraque...
Et ce que je veux dire, c'est que les manifestations, elles se comprennent dans un sens où qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les politiques publiques qui autorisent et qui défendent? Quelle est la politique vis-à-vis de la police? Quelles sont les consignes données à la police, etc. Et donc, le jour de la manif, comme on dit, c'est simplement la résultante de tout ceci. Bon. Et à ne pas considérer tout ceci, tout ce qui précède, on se met dans une perspective de comparer gilets jaunes et manifestants moscovites. Bon. Donc je crois qu'il faut éviter ça, mais je crois aussi que, pour revenir à votre question, pardon de m'en être éloigné, il y a bien liberté publique qui sont venues après 1789, mais qui sont pour moi absolument indissociables. Et d'ailleurs, les déclarations récentes, je pense à la Convention européenne des droits de l'homme qui date de 1950, mettent bien tout ça sur le même plan. Et ce qu'il faut approfondir, c'est l'effectivité de ces droits, c'est-à-dire de savoir si, aujourd'hui, le droit de manifester, le droit de contester telle ou telle décision, en effet, peut permettre de réfléchir sur les sujets qui nous occupent.
Vous disiez effectivement, Jean-Marie Delarue, qu'on ne peut pas sacrifier un droit à l'autre, qu'il faut, il faut les prendre dans leur ensemble. Tous sont fondamentaux, mais il peut y avoir malgré tout des tensions entre eux. Je ne reviens pas ici sur sécurité et liberté. On pourrait prendre l'exemple du droit à la vie privée et du droit à la santé, avec les données de santé, par exemple, d'un côté, ou bien le droit à la santé, même le droit au refus des traitements, le droit... Il y a des contradictions. Est-ce que l'institution que vous présidez, au-delà des rappels fondamentaux, a aussi vocation à tracer des critères, des limites dans les cas difficiles, dans les cas qui peuvent être parfois, pour le législateur lui-même, difficiles à trancher. Et au fond, cette institution, comment est-ce que vous la situez dans le système juridique que vous décriviez rapidement? C'est-à-dire, on a besoin d'institutions qui sont des pouvoirs, on a besoin de contre-pouvoirs. Est-ce que la démocratie française a suffisamment, justement, dans ce jeu institutionnel, d'outils?
Je partage en tout cas votre analyse, Frédéric Vorm, selon laquelle les plus grands conflits aujourd'hui de notre société sont des conflits qui opposent un droit de l'homme à l'autre. Et que ça se voit en matière de bioéthique, ça se voit dans beaucoup de domaines. Vous en avez cité des exemples, je n'y reviens pas. Alors, je crois que pour surmonter ces conflits, il faut rechercher de nouveaux équilibres. Il faut concilier, comme dit souvent le juge, des impératifs contradictoires. Bon. Et cette conciliation, eh bien, elle ne peut naître que dans le débat éclairé. c'est-à-dire dans la libre expression d'une part et dans l'information soigneuse, documentée, j'allais dire, et qui prend du temps, comme on le prend un peu aujourd'hui ce soir, d'expliquer les choses. Toute chose dans notre démocratie est de moins en moins pourvue. Alors,
dans c'est fondamental en effet.
Dans le système institutionnel, c'est vrai que la commission consultative des droits de l'homme devrait faire ce métier de conciliateur entre idées opposées. Je crois qu'il faut bien l'avouer, elle court souvent après l'urgence, après les situations dramatiques, après le sort qu'on réserve aux migrants, après les dangers que fait courir tel système informatique, etc. Donc il faudrait en effet absolument prendre notre temps pour éclairer les débats en cours, comme d'autres peuvent les éclairer. On a parlé du comité d'éthique, mais ça peut être aussi la Commission nationale informatique et liberté, le défenseur des droits, etc. Je ne prétends à aucune exclusivité, mais peut-être qu'il faudrait recentrer en effet la commission sur ces conflits qui opposent ce que nous croyons être des droits de part et d'autre. On voit bien dans l'exemple de la manif pour tous, qui a divisé beaucoup les Français, moins qu'on ne le dit souvent, mais qui a divisé les Français sur une question qui opposait deux droits, les uns de se marier, les autres d'élever les enfants comme ils l'entendaient. Bon. On voit bien que les réponses ne sont pas simples. Et par conséquent, au-delà des trésors diplomatiques que les gouvernements sont enclins à employer, il faut aussi ouvrir des débats, discuter, essayer de prendre conscience des enjeux de part et d'autre. Autrement, on n'avance pas.
Mais alors justement, Jean-Marie Delarue, ça m'amène un peu pour boucler la boucle, et malheureusement, parce que les choses passent trop vite, à vous reposer la question du contexte général, parce qu'on peut avoir l'impression que ces conciliations sont sans fin, de sujet en sujet, mais est-ce qu'il n'est pas urgent avant tout de remettre cette question de la conciliation des droits en général à l'ordre du jour, c'est-à-dire de la relégitimer, d'en refaire l'objectif non pas minimal, condescendant, faible d'une société par défaut, démocratie par défaut, qui arriverait juste à des petits consensus, en faire au contraire l'exigence la plus forte, l'exigence la plus ouverte, ce qui peut nous permettre de résister aux dangers d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous conseilleriez pour, au fond, au-delà des solutions que vous pouvez défendre sur tel ou tel sujet majeur, pour changer l'esprit public, j'allais dire, sur ces sujets-là, pour remettre ces questions-là, un peu comme dans les deux 89 précédents, même si vous avez très bien montré que c'était pas si simple, la remettre un peu comme boussole. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des libertés publiques la boussole de l'esprit public?
Alors, il faut que le débat redevienne quelque chose d'important, d'intéressant. Pour ça, il faut écouter les personnes qui ne sont pas écoutées aujourd'hui. Bon nombre de nos concitoyens se plaignent de ce qu'ils sont tenus pour quantité négligeable. C'est ce qu'a montré la récente crise sociale, mais bien d'autres avant elle. Il faut aussi redonner des formes au débat démocratique. Il faut trouver dans notre pays des formes qui n'existent plus guère. Moi, je suis frappé, mais je suis pas philosophe comme vous, de la progression du machiavélisme.
Vous l'êtes autrement.
C'est-à-dire noir-blanc.
Hein. Oui, absolument.
Et je crois que ça s'impose notamment fortement dans les médias, quels qu'ils soient. Je ne parle pas transculture. Et par conséquent, il faut aussi oublier tout ça. Il faut faire comprendre au pouvoir public qu'il n'y a pas de démocratie qui vaille sans la restauration de tels débats et considérer que le Parlement a besoin aussi d'être en écho à lui, amplifié, le rôle du Parlement a besoin d'être amplifié et par d'autres débats. Il faut donc multiplier les instances. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent pour faire vivre notre démocratie et ses valeurs fondamentales et donc ses droits de l'homme.
Ces droits de l'homme dont l'histoire ne s'est pas arrêtés, qui peuvent être passés un petit peu aujourd'hui par des dangers ou des crises majeures, mais qu'on pourrait encore remettre en avant, Jean-Marie Delarue.
J'espère bien, en tout cas, il faut pas, même si c'est consensus mou, il faut pas renoncer aux droits de l'homme, hein, ça serait coupable. Mais il faut au contraire les développer, les amplifier à la sauce de 2019.
Pour que nos vies soient vivables, il faut le rappeler.
Absolument.
Merci beaucoup,
merci
Jean-Marie Delarue. Matière à penser, 89 est-il un prisme ouvert ou un prisme brisé. Ce soir, c'était notre deuxième conversation avec, grâce à Jean-Marie Delarue, grâce aussi à Jean-Michel Bernon, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous demain sur l'ouverture de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, 30 ans après 1989, avec Clara Royer. À demain.